Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le créneau conférence sur Radio LBGS. Aujourd'hui, nous vous proposons un zoom sur le quartier d'Exarchia à Athènes, un quartier au cœur de la contestation sociale depuis le début de ce qu'on appelle la crise grecque. Ce quartier qui tend vers l'autogestion est régulièrement pris d'assaut par la police grecque, des assauts de plus en plus violents depuis le changement de gouvernement grec il y a peu. Vendredi 15 novembre dernier, une soirée de soutien à Exarchia était organisée à Albi par plusieurs collectifs locaux, notamment l'ESCAL, Sud Éducation, le groupe libertaire ELAF et Attac Tarn. Après la projection d'un documentaire consacré au convoi solidaire qui ravitaille ce quartier depuis toute l'Europe, un échange a eu lieu entre les personnes présentes, certaines avaient déjà participé d'ailleurs au convoi précédent. Il y avait également lors de cette soirée Yanis et Maud Yuluntas, un couple franco-grec très impliqué dans la lutte à Exarchia et qui a réalisé 3 films sur ce sujet, des films qui sont tous disponibles librement sur internet. Nous vous proposons donc d'écouter ces échanges, il y est question des dernières actualités de ce quartier, mais aussi de la situation des migrants qui passent par la Grèce et qui sont parqués dans des camps aux conditions de vie inhumaines. On parlera aussi d'Aube Dorée, le parti nazi qui a beaucoup fait parler de lui il y a quelques temps, après avoir fait des scores inquiétants pour les élections, mais qu'on entend beaucoup moins depuis quelques temps. Et on commence tout de suite avec une intervention de Yanis Yuluntas qui nous replace un petit peu dans le contexte de ce quartier d'Exarchia.
Bon, pour les dernières nouvelles, ça ne sera pas un secret. On vient de rentrer d'Athènes avec Maud et Achille, qui sont là. On a passé 8 mois depuis le dernier convoi. En fait, on n'est pas revenu depuis le dernier convoi de février cette année. Donc, on a passé un peu plus de la moitié à Exarchia. Et après, la moitié du reste en Crète, pas loin de l'aéroport de Castelli, où on était de temps en temps, qui est une autre lutte qui a commencé depuis cette histoire. Ainsi que dans le nord de la Grèce, où il y a une autre lutte aussi environnementale cette fois. Voilà. Donc, évidemment, on a les dernières nouvelles, mais ça serait bien que d'abord... des personnes qui sont venues à ce convoi ou au suivant interviennent, ou d'autres personnes qui sont déjà allées à Exarchia interviennent, quoi. Avoir les dernières nouvelles, quoi, de réagir par rapport à ce film, si vous voulez. Donc, il y en a d'autres qui sont allés à Exarchia dans certaines circonstances.
Mais déjà, je ne sais pas dans quelles conditions s'est fait ce convoi, parce que là, c'est quand même, ça représente quand même un nombre important de camions. Enfin, voilà, peut-être... dire un peu comment ça s'est monté, à l'initiative de qui
En fait, c'est un secret de Polichinelle. En fait, en France, quelques initiatives ont fait florès à partir de l'effondrement du système de santé en Grèce. Donc on revient au passé parce que c'est pas dit dans le film, hein, qui est un film pris sur le vif, filmé sur le vif par une amie à nous qui s'appelle Louise Lebourg, qui est venue avec ses 2 filles décidant au dernier moment de faire ce voyage et ayant ce projet de nous filmer sur le vif et de vivre ces moments intensément. Elle est restée qu'une semaine, elle connaissait pas vraiment le terrain. Par contre, elle a vraiment participé activement et ses filles aussi. Et donc c'est pour ça que ce témoignage ne raconte pas les tenants, les aboutissants de la situation. Par contre, il faut juste situer, contextualiser que la crise grecque, ce qu'on appelait la crise grecque, une crise financière, mais aussi une crise politique, évidemment, comme partout ailleurs. On sait bien que la racine des problèmes, qu'ils soient financiers, économiques, écologiques ou sociaux, est toujours politique, et a provoqué la destruction du système de santé. À l'époque, dans ce film-là, on parle encore peu de la crise des migrants, mais on en parle déjà. On en a parlé encore plus par la suite. Mais par contre, par exemple, des moments du film qui se situent au niveau du dispensaire médical qu'on appelle structure de santé autogérée d'Exarchia, à Dié, est lié au fait qu'à l'époque, on a 30% des Grecs qui n'ont plus de couverture maladie. Voilà, tout simplement. Donc en fait, à l'origine des initiatives de solidarité par-delà les frontières, il y a essentiellement des gens qui, au départ, sont franco-grecs, qui, dans les années 2009-2011, sont dans une initiative spontanée, souvent familiale, interindividuelle, en réseau, auto-organisé et sans aller au-delà au départ. Et puis progressivement, de fil en aiguille, ça a pris d'autres proportions. Et à Paris, en Bretagne, dans certains secteurs de France, ont commencé à s'organiser des initiatives beaucoup plus structurées, organisées, avec des volontés diverses. Par exemple, en lien avec des ONG ou sans lien avec les ONG, en lien avec l'État ou sans lien avec l'État, Et donc nous, c'était pas notre cas, ni les ONG, ni l'État. Et puis pour ce qui concerne ce convoi en particulier, donc puisqu'on était à l'initiative avec Maud, c'est dit au début du film, en fait, il nous arrivait la chose suivante, c'est que faisant des allers-retours et entre les deux pays où on vit un peu de deux côtés de la frontière et faisant des œuvres, créant des œuvres que vous avez sur la table, là, des livres sur, par exemple, sur Exerquiel à Noir, par exemple, un livre qui a servi à la solidarité aux trois films qui sont gratuits sur Internet. Hein, les DVD ne sont pas nécessaires, c'est gratuit sur Internet. Ne vivons plus comme des esclaves, tourné en 2012, sorti en 2013, puis Je lutte donc je suis, L'amour et la révolution. Ces films-là ont servi à financer des initiatives solidaires sur place, certains des lieux que vous avez vus à l'écran. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès Ne vivons plus comme des esclaves en 2013, pour conclure, il y a de plus en plus de gens qui nous rencontrent dans les salles de cinéma ou dans les squats ou dans les lieux autogérés ou dans les lieux syndicaux comme ici qui nous accueillent, nous ont dit « Ah ben tiens, on aimerait bien vous aider ». Et de fil en aiguille, en fait, assez rapidement, à cause de la relation ou grâce à la relation dans les films, à travers les projections de films et aussi les relations personnelles, parce que certains d'entre nous, on se connaissait aussi, plus ou moins de loin ou pas. Par exemple, avec Marco, on était dans la lutte contre le projet de barrage au Testé, par exemple. D'autres, on était dans des luttes antifascistes, on se connaissait pour les cafés philo, par exemple, comme Eric et Annick Servin qui sont au bout, ou avec Attaque, par exemple, comme ici Patrice Canal, Leslie qui est dans la pédagogie freinée, elle aussi, initiative donc, qui est très, très intéressante en Grèce aussi, il y a beaucoup d'initiatives sur la pédagogie freinée. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, hein, Jean Bourdoncle, ça fait très très longtemps qu'on se connaît aussi dans les réflexions sur la démocratie directe, sur l'écologie sociale, etc. Donc, du coup, en fait, ces gens-là, naturellement, ils se sont rapprochés, on s'est mis en réseau, il y a eu des initiatives, des gens qui ne sont pas partis parmi les personnes qui sont ici, mais qui ont aidé, qui ont soutenu diversement, et d'autres qui sont partis, pas forcément ce voyage-là, quelquefois le suivant, et quelquefois plusieurs reprises. Donc, en fait, je dirais que les films ont été quand même un des outils autour de ce convoi-là, pas forcément autour de toutes les initiatives qui existent, hein, mais ont été un des outils, parce qu'à la fois, ils ont apporté, je dirais, la plus grosse manne d'argent pour les convois, et en même temps parce qu'ils ont servi de support de communication à la fois en amont pour rentrer en relation avec des personnes qui voulaient aider, et en aval aussi parce que ça nous a permis de faire savoir que l'initiative des convois existait et d'avoir des ramifications, des réseaux un peu partout en France pour récolter, ramasser toutes sortes de choses dont on avait besoin sur place. Excusez-moi, c'était un peu long, mais c'est pour contextualiser.
Il y a d'autres convois en préparation ?
En fait, actuellement, c'est très difficile de répondre à la question de savoir quel convoi il y a en préparation. Alors, je reprendrai les questions si jamais c'est moi qui réponds, parce qu'il y a la radio Albigès qui, ce soir, est présente, et c'est important. C'est nos amis de longue date. Ils ont toujours soutenu ce qu'on a fait, que ce soit les films, que ce soit les initiatives solidaires, etc. C'est pour mieux que ça s'entende. Donc, est-ce qu'il y aura un convoi prochainement ? En fait, nos camarades sur place disent que pour l'instant, c'est quasiment impossible de passer sous la forme convoi, formelle, visible, vu que, comprenez-le, il y a une évacuation massive du quartier. C'est un bras de fer de tous les jours. On est éveillé tous les matins, entre 4 et 8 heures, systématiquement, et quelquefois plus tôt, quelquefois on fait des gardes toute la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de violences, des tortures dans le quartier. Enfin, il se passe énormément de choses. Et dans ce contexte-là, déjà que par le passé, ça n'a pas toujours été simple de venir avec les fourgons, on a eu déjà de la casse, on a eu des petits soucis, on a même été arrêté lors d'un convoi, interpellé lors du convoi de novembre 2017. On a eu plusieurs pressions, et puis les médias, vous l'avez vu dans ce film, ça n'a pas été mieux dans les films suivants, plus tard dans les convois suivants. On a également été accusé d'amener des kalachnikovs, etc. Donc, par conséquent, de ce contexte-là, vu qu'en plus, une des structures qu'on est censé aider, c'est le groupe Rouvikonas, qui est un des groupes de résistance principaux à Athènes, à Exarchia, et qui est sur le point d'être classé en organisation terroriste, alors qu'il n'a jamais ni tué ni blessé personne. Par conséquent, vu ce contexte-là, c'est assez délicat d'y aller sous la forme qu'on voit. C'est pour ça que le fourgon qui va partir de façon imminente va partir de façon discrète, non identifiée, sans dire qui il est, quoi, sans s'identifier, il va aller livrer là où il faut, et d'autres véhicules partiront par la suite dans les mêmes conditions pour l'instant. Par contre, on garde l'idée de faire un convoi, mais ça serait un convoi qui se passerait différemment. Ça, c'est pas un secret, puisque c'est pour 2020, et l'idée, de toute façon, est assez logique, c'est d'y aller par petits groupes, sur plusieurs jours, de façon à ne pas provoquer de heurts de face à face sous la forme du convoi lui-même. Par contre, ensuite, de se regrouper sur place après avoir commencé à livrer. Voilà, ça, c'est un projet qui n'est pas un secret, hein, mais qui, par contre, nécessite d'attendre un petit peu que les choses se tassent un peu, que les choses soient plus claires, pour savoir aussi où livrer. Parce que nous, notre question, c'est aussi d'amener ce dont il y a besoin, là où il y en a besoin. Et actuellement, les choses sont tellement instables que c'est très difficile de pouvoir organiser quelque chose de cette taille-là, quoi. Parce que peut-être que dans un mois, il n'y aura plus rien peut-être avec Sarkia en termes de lieux autogérés, et peut-être que tous ces lieux seront réorganisés autrement et ailleurs, sous une autre forme. Par contre, il y a toujours plein de lieux partout en Grèce, hein, organisés, auto-organisés, autogérés.
Et qu'en est-il des migrants, je reprends la parole, des migrants à Sarkia aujourd'hui, dans ce contexte, comment ça se passe pour les migrants?
Bon, je vais encore répondre, non, merci, bref.
Je peux répondre.
Ah.
Le quartier d'Exarchia a ces dernières années été au maximum de ses capacités, au maximum des capacités de beaucoup de lieux, a accueilli énormément de personnes, a abrité. Enfin, et c'est pas le lieu où les solidaires qui abritent, accueillent, hein, c'est les réfugiés eux-mêmes qui vivent sur place, créent des expériences, créent des lieux de vie et participent à l'autogestion, participent à l'expérience mise en place. Et malheureusement, le contexte actuel fait que beaucoup des squats autogérés d'Exarchia et aussi en dehors du quartier, parce que ça a commencé par des évacuations en dehors du quartier d'abord, hein. Petit à petit, les lieux autogérés, les squats se sont fait grignoter, et donc beaucoup de familles ont été expulsées des squats, donc la situation est difficile dans le sens que l'alternative viable, humaine et pleine et riche d'expérience, pour beaucoup, elle a disparu du jour au lendemain, après une attaque policière, une attaque étatique. Et pour beaucoup, c'est retour à l'état des camps, donc avec les conditions horribles qu'on connaît, voire la mort, hein, tout simplement. Donc la situation de beaucoup de nos camarades réfugiés n'est pas envisageable, hein, du tout. Après, il y a encore quelques grands lieux, le notara avec qui on travaille beaucoup est toujours actif, accueille toujours beaucoup de monde. Mais comme le dit Yanis, la situation est instable, on ne sait pas combien de temps cet équilibre va tenir. Donc on est pas pessimiste, mais inquiet. Si on est inquiet du sort de l'expérience et des hommes et des femmes qui la font vivre, quoi.
Précisons que vous n'avez pas vu Clément dans le film, parce que ce n'était pas ce convoi où il était venu. Par contre, il est venu aux trois convois suivants, et je voudrais quand même signaler qu'il a aussi aidé à faire venir à deux reprises dans des tournées en France et en Belgique et en Suisse des membres de Rouvikonas, des membres de Notara 26, des membres de Perseus 999, lors des deux tournées qu'on a organisées de membres de ces collectifs, et aussi qui est venu pendant le mois de juillet faire des gardes, assurer la sécurité des réfugiés et des solidaires du Notara. On les fait partie des anciens convoyeurs qui ont réussi à venir pour participer à ces gardes, à ces actions de solidarité. Il faut savoir qu'il y a des gens de plus de 10 pays différents, de l'ouest de l'Europe, mais aussi jusqu'au Brésil, qui sont venus au Notara, par exemple, pour parler que du Notara, pour assurer des gardes et pour participer à protéger ce lieu qui, du coup, a tenu depuis 5 mois quasiment. Je rappelle que le Premier ministre grec, Mitsotakis, nouveau Premier ministre de droite, élu le 7 juillet, rentré en fonction le 8 juillet dernier, avait promis, c'était sa grande promesse de campagne, d'en finir avec Exarchia en un mois. Et au bout de 5 mois, ben, il n'a toujours pas terminé. Et il y a encore des lieux importants qui résistent, comme parmi les squats de réfugiés de Notara 26, qui est le plus ancien, ou parmi les squats politiques, le squat Leila Karaganis, qui est le plus ancien de squat politique à l'intérieur du quartier, ou encore le Cavox, qui est la base de Rouvikonas, avec juste à côté aussi le dispensaire médical autogéré, qui est aussi visé par les évacuations, qui vise donc aussi à détruire le dispensaire médical autogéré.
Je suis en contact depuis peu avec Babis, en fait, qui est instituteur à Zarqia. Et apparemment, il y a un collectif d'enseignants qui a réussi à faire revenir quelques enfants, 2 ou 3. Tu en sais plus, Yanis ?
Oui, en fait, c'est un des sujets du prochain film, Nous n'avons pas peur des ruines. Babis est à nouveau, comme dans Jelu, donc je suis un des personnages du film, parce que tout simplement, il y a un réseau d'instituteurs qui, faisant penser par exemple à RESF en France, mais pas seulement, se bat pour empêcher ces enfants d'être expulsés vers les camps, des camps qui sont de plus en plus fermés, on est loin des hotspots du départ. Et donc Babis fait partie de ceux, avec d'autres, qui, notamment dans le réseau Pédagogie Freinée, École Missionnaire, mais pas seulement, mais c'est vrai que c'est le noyau dur, il est là, qui considèrent que leur action d'instituteur, elle va au-delà de leur simple métier, et qui vont jusqu'au camp, comme à Corinthe. Donc les enfants en question, c'était surtout des enfants afghans pour la plupart, et qui étaient dans le squat Bouboulinas, qui étaient dans le squat Castro, et à l'ouest d'Exarchia, juste en dehors, du côté ouest d'Exarchia, et qui étaient afghans pour la plupart, et qui donc ont réussi à être ramenés de Corinthe, et qui ont réussi à trouver des solutions de logement. Et donc on a accompagné Babis récemment pour aller amener de la nourriture et faire différentes choses avec, et à rapporter des témoignages de ses enfants, par exemple. Donc on a des témoignages dans le prochain film d'enfants migrants, afghans, qui racontent leur histoire. Voilà. Et qui racontent comment ils ont réussi à sortir des camps et à revenir à Exarchia, à l'intérieur même d'Exarchia, avec ces instituteurs formidables qui sont un peu les justes de notre temps.
Du coup, moi j'aurais une question un peu d'ordre pratique. On est voilà, donc, dans les, entre autres, locaux de Sud Éducation, et ben, voilà, nous on se demande aussi qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, que ce soit pour les enfants migrants ou les enfants grecs, et notamment au point de vue matériel, sachant que, comme tu viens de dire, c'est compliqué d'envoyer des choses là-bas, mais j'imagine qu'il y a toujours des besoins.
En fait, le problème, je pense qu'il faut le distinguer entre ce qui se passe à Exarchia, avec la volonté d'évacuation, des squats et des lieux autogérés, et ce qui se passe en Grèce en général. Je pense qu'il faut distinguer les deux. Il y a une volonté d'évacuer, de nettoyer Exarchia, pour prendre le terme, et d'évacuer les squats, qui va au-delà d'Exarchia aussi, puisque les évacuations de squats ont lieu également, par exemple, à Larissa, il y a une semaine, un squat, ou encore à Yanina il y a 3 semaines, un squat Brooklyn par exemple. Donc ça se passe pas seulement à Exarchia. Maintenant ça se passe essentiellement à Exarchia parce que à Athènes, au centre-ville d'Athènes, il y a quand même la forte concentration de squats qui est de 49 squats, dont la moitié rien qu'à Exarchia. La moitié étant des squats politiques, de collectifs politiques, hein, et l'autre moitié des squats de réfugiés migrants, mais qui sont aussi d'une certaine manière des squats politiques, puisque comme vous l'avez compris, ils s'y pratiquent un certain nombre de choses, une forme de politisation des personnes, qui quelquefois d'ailleurs avaient déjà des convictions et des savoir-faire avant d'arriver. Hein. Donc du coup, forcément, c'est ce noyau qui est attaqué. Et donc, par conséquent, s'il s'agit d'aider les collectifs qui sont à Exarchia ou juste à côté, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça fonctionne encore. Il y a encore des gens qui vont aider physiquement, qui vont sur place. Hein, des gens qui sont déjà venus en convoi et d'autres personnes qui ne sont jamais venues mais qui avaient soutenu diversement, par exemple. Et puis, il y a encore du matériel qui arrive, des choses qui arrivent, heureusement. Et c'est d'ailleurs un peu l'un des objets de la soirée de ce soir. Et puis de l'argent qui arrive, et c'est aussi pour ça que vous avez les t-shirts de Rouvikonas sur la table, d'autres luttes qui nécessitent de l'aide. Et d'ailleurs, je remercie les gens qui nous ont aidés à préparer tout ça, parce qu'il a fallu retourner les t-shirts et des choses comme ça pour passer la frontière grecque, pour éviter que ces affaires soient confisquées, comme ça a été le cas pour d'autres personnes qui ont essayé de faire la même démarche en direction de l'Allemagne, hein, pour aller en Allemagne. Donc du coup, nous, on a tout retourné, et c'est vous qui nous avez aidé à tout remettre en état, à tout plier tout à l'heure, pour parler que des t-shirts. Donc oui, c'est une affaire compliquée donc, de continuer à aider sur place, mais il y a beaucoup de villes, beaucoup d'initiatives qui existent ici et là. Après, il faut bien savoir que, comme le disent certains amis, certains personnages sur place, le but principal, c'est que vous puissiez résister, vous aussi, là où vous êtes, quoi. C'est ça qui nous importe le plus, c'est que ça fasse florès, qu'il y ait de plus en plus d'initiatives qui se basent sur la démocratie réelle ou directe, appelez ça comme vous voulez, et qui, donc, qui remettent en question le fait que des gens nous confisquent le pouvoir et nous volent nos vies, quoi, en fait, jusqu'à nous voler la vie, effectivement, quelquefois, parce qu'avec la pauvreté, avec la répression, avec toutes ces violences qui existent, c'est carrément nos vies au sens propre qui sont détruites parfois, quoi. Et sans parler de la situation des migrants. Donc en fait, la priorité, c'est plutôt là. Elle est plutôt là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Grèce, dans les assemblées qui ont eu lieu ces derniers jours, on a beaucoup plus entendu parler de ce qui allait se passer, par exemple, demain pour les Gilets jaunes, ce qui allait se passer pour la grève générale du 5 décembre en France. Qu'est-ce qui va se passer en France? Est-ce qu'en France, ça va repartir? Peu importe les divergences et différences avec certains groupes de Gilets jaunes ici ou là, etc. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge comment? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres formes de lutte? Voilà, il y a d'autres initiatives qui voient le jour actuellement. Deuxièmement, ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans le monde, des soulèvements de différents types. Et du coup, c'est là-dessus plutôt qu'on a un œil. En fait, nous, la question politique est au centre. La question de la solidarité, elle est après, elle est un soutien de la question politique. Donc, en ce moment, le besoin, il est plus du côté grec que du côté français. Donc, forcément, il y a un appel d'air, et c'est vrai que la solidarité est vraiment la bienvenue, surtout que la répression sur place est très forte. Mais en même temps, l'objet vraiment, avant tout, est un objet politique, c'est-à-dire multiplier les foyers de résistance pour arriver à changer les choses par-delà les frontières, parce que chacun dans son coin n'y arrivera pas.
Et est-ce que le problème grec, il est uniquement grec? C'est-à-dire que tout ce qui se passe en Grèce, en ce moment, on ne peut pas dire que c'est simplement le problème des politiques grecques. C'est en Europe, et donc il y a un soutien qui vient d'ailleurs aussi, et une volonté politique extérieure pour que ça se passe comme ça là-bas aussi, non? C'est une question,
en fait. Il le sait, il connaît la réponse. Non, mais disons-le, on est censuré sur les réseaux sociaux systématiquement dès qu'on le dit. C'est absolument incroyable. Moi, ça fait 4 publications que j'ai faites sur le sujet. Vous les avez sur mon blog si vous voulez, mais sur les réseaux sociaux, vous ne les trouverez pas. Et sur Twitter aussi, des gens qui m'ont relayé se sont fait censurer. Pourtant, je ne suis pas un habitué des théories du complot, des thèses conspirationnistes invraisemblables, des aliens et d'autres trucs de ce genre, les chemtrails et tout. Là, il s'agit juste de transmettre des informations très précises concernant les pressions de l'Union européenne depuis la capitulation de Tsipras pour aller plus loin et au-delà de ce qui s'est passé en juillet 2015, aussi détruire ce mauvais exemple donné par la Grèce avec ce quartier qui quand même est unique en Europe. Hein, il y a des quartiers où l'autogestion est forte, où les résistances sont fortes, comme le quartier de Sants à Barcelone, mais qui est quand même assez divisé par la question régionaliste, autonomiste. Hein. Il y a les drapeaux rouges et noirs d'un côté, les drapeaux régionalistes catalans de l'autre, enfin régionalistes, pardon, les drapeaux catalans tout court de l'autre. Il y a des quartiers comme Christiana ou Copenhague, des quartiers à Berlin, les Lentillères à Dijon, mais c'est quand même pas pareil que cette concentration très forte et cette résistance qui va jusque sur les terrasses et les balcons qui aujourd'hui sont scrutés par des drones et par des hélicoptères sans cesse, hein, 24 heures sur 24 quasiment, pour nous empêcher de résister aussi sur les terrasses puisqu'on n'a plus la même mise sur la rue dans le quartier. C'est assez difficile, il y a beaucoup de checkpoints. Et donc, par conséquent, même sur les terrasses, avec les poutres et les moyens qu'on utilisait autrefois pour résister et faire feu de tout bois si jamais on venait attaquer le quartier, même ça, c'est de plus en plus difficile. Donc, en fait, à partir de l'automne 2015, a été vérifiée cette pression, cette demande, qui est quasiment l'une des seules à ne pas avoir été honorée par Tsipras. Il n'est pas allé jusque-là, il n'a pas trop touché à Exarchia à l'époque. Et s'il y a eu quelques évacuations en début de l'année 2019, autour du mois de mars, avril, je pense que c'est plus pour des raisons politiques, politiciennes et stratégiques. Mais pendant tout ce laps de temps, autant on était en désaccord frontal avec Tsipras, autant par contre, il avait assez peu touché au quartier. Peut-être qu'il avait encore besoin de se garder cette caution d'extrême gauche. Peut-être, parce que le quartier d'Exarchia, ce n'est pas que les libertaires. Hein. Il y a une extrême gauche qui est très forte dans le quartier. Il n'y a pas que des drapeaux noirs et rouges et noirs. Il y a aussi des drapeaux rouges et de toutes sortes. Et donc, par conséquent, cette histoire de, des luttes dans le quartier fait que Tsipras n'a pas trop osé y toucher. Et depuis l'automne 2016, Mitsotakis a fait sa campagne de communication en Europe, plus qu'en Grèce même, en direction des dirigeants européens, en promettant que si lui, il prenait la place de Tsipras, il allait nettoyer Xarchia. Et c'était vraiment une volonté européenne. Il faut vraiment savoir que ce qui se passe actuellement en Grèce est doublement une affaire européenne, triplement même. Premièrement, l'évacuation d'Exarchia, elle est directement le fait de la pression, de la volonté des dirigeants européens d'éliminer l'exemple principal d'alternative en acte en termes de résistance comme en termes d'autogestion, c'est-à-dire de ne plus avoir besoin du pouvoir ni de l'État dans ce quartier, même si ce n'est pas un quartier à rupture totale, hein, Exarchia, vous l'avez compris. Deuxièmement, l'Europe est directement liée à l'affaire des migrants telle qu'elle est traitée aujourd'hui, suite à l'accord Union européenne-Turquie en mars 2016 et par conséquent à la création de ces hotspots qui sont made in France même pour la plupart, c'est-à-dire le camp de Moria qui vient de dépasser les 15 000 personnes enfermées alors qu'il y a 2600 places au départ. C'est un camp qui a été conçu par les responsables qui entouraient M. Bernard Cazeneuve quand il s'est déplacé lui-même sur place, hein, à l'époque, et qui a ensuite été inauguré, entre autres, par M. Schulz. Donc les dirigeants européens sont directement liés, et le savoir-faire français en matière de camp également. Et enfin, le troisième point, et d'ailleurs le durcissement actuel est aussi lié à l'évolution des accords sur ce sujet, l'Europe forteresse, etc. Et le troisième point, c'est le point financier et économique. Le dumping social pour le travail, le salaire, les retraites, etc., la santé, la privatisation de tout, du bien commun. La Grèce est un laboratoire du durcissement du capitalisme, un capitalisme financier, bien sûr, le capitalisme de la dette, sa nouvelle forme aujourd'hui, depuis pas mal d'années maintenant, et le sujet que traite Attaque, entre autres. Et donc, par conséquent, nous, en Grèce, on est vraiment le laboratoire de ça pour l'Union européenne et pour le capitalisme mondial, quoi, hein, clairement. Donc, à la fois, donc, destruction d'une utopie en acte. Deuxièmement, traitement ligne de front par rapport aux migrants. Troisièmement, le durcissement du capitalisme en travers, en particulier, la question de la dette et l'évolution du capitalisme financier. Donc oui, l'Union européenne est complètement liée à ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. C'est une affaire européenne. Complètement.
Je peux témoigner d'un truc, juste un tout petit peu. Bon, j'ai participé à plusieurs convois en Grèce. Ce qui m'a touché, c'est la force, la force de la lutte là-bas, que j'ai trouvé de façon un petit peu plus forte que ce que j'ai trouvé en France sur les champs de lutte. Et ça fait énormément de bien de se baigner dans cette ambiance. Voilà, c'est-à-dire qu'on en revient un petit peu plus fort. J'ai appris une chose là-bas, c'est la question de la solidarité. La solidarité n'est pas donner des choses dont on n'a plus besoin, ça c'est Costas qui disait ça de façon fort juste, mais c'est partager. Partager, c'est pas uniquement donner ce qu'on n'a pas besoin, mais c'est venir partager les choses avec les autres. Voilà. Donc ça, j'en suis revenu ici avec cette idée-là que deux notions sont très importantes dans nos sociétés. Il va falloir vraiment qu'on se mette dans la tête très fort, c'est la solidarité et le partage, où que ce soit. Il va falloir arrêter de penser uniquement avec des questions économiques, égoïstes, et partager vraiment nos savoir-faire, partager ce que l'on a, nos biens, s'il y a bien encore privé, et puis la solidarité, c'est être aussi avec l'autre, en tout point, hein, voilà. Morale, physique et compagnie. Hein. Bon, ce que j'ai appris d'abord aussi, Yanis vient de l'expliquer, c'est la question de la dilapidation des biens publics et privés. C'est-à-dire qu'il y a une attaque claire et nette des pouvoirs. Donc les pouvoirs, on va dire que les pouvoirs politiques européens sont adossés à tous les pouvoirs financiers et industriels. Et actuellement, ce qui est le plus attaqué là-bas, en Grèce, c'est les questions de groupes solidaires, de gens qui s'organisent, le collectif, le social, c'est tout ça qui est attaqué. Et on voit en France, c'est la même chose. Tout ce qui est tué et ciblé de façon systématique, c'est la solidarité ou le collectif. À Notre-Dame-des-Landes, ça a été ça, de façon extrêmement nette. Ce qu'ils voulaient, ils étaient prêts à céder sur certaines choses, à abandonner l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, parce que c'était le seul moyen de tuer à petit feu l'idée du collectif, l'idée du solidaire autour de Notre-Dame. Et en Grèce, disons qu'on est aux avant-postes d'une expérience, c'est ce que les Grecs nous disaient là-bas, ce que l'on vit, vous le vivrez dans peu de temps, mais c'est pas dans peu de temps, on le vit déjà, c'est en route tout simplement, c'est s'accaparer tout le bien public, tout le bien privé, et tuer toute idée que les gens puissent se révolter. C'est-à-dire leur faire croire que de se révolter, ça ne sert à rien. Et moi, je suis persuadé aujourd'hui que, quand on le dit comme ça, ben, je suis persuadé que justement la révolte, ça sert à quelque chose. Voilà, très clair. S'ils défendent autant l'idée du contraire, c'est que c'est justement ça peut servir à quelque chose.
Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, déjà, je plus soit je rejoins absolument sur tout ce qu'ils vont nous dire. Je voudrais juste sur ce que tu avais dit au début, quand je suis revenu à Zirka, je me suis senti ça fait du bien, comme tu disais. Par contre, je me garderais bien de dire qu'ils sont plus que nous sur certaines choses, plus ceci ou plus cela. Parce que j'ai bien conscience que les camarades là-bas se gardent bien de tout ce qui est d'avant-gardisme. Et ce qu'ils souhaitent, ce que nous souhaitons, enfin, tout le monde souhaite, c'est une multiplication des expériences partout en Europe, partout dans le monde, une multiplication des révoltes, une multiplication de. Ça peut être n'importe quoi, le pire ce serait une action. Et moi, ce que j'ai vu en France ces derniers mois, moi je suis un jeune anarchiste, en fait j'ai envie de me pendre, mais il y a des moments que j'ai vécu ces derniers mois. Avec nos voix, notamment certains collectifs gilets jaunes, parfois local, des trucs j'ai vu émerger comme ça, des choses modestes et qui sont devenues, qui ont fleuri devant mes yeux. Je pense notamment au collectif gilets jaunes de Groyer, dans le Tarn, avec qui j'ai pu travailler ces derniers temps. Ils m'ont relancé pour, parce qu'on n'est pas, on ne partage pas à la base le même parcours politique, ce que j'ai vu fleurir en termes justement d'expérience et de capacité d'autogestion, ça m'a relancé pour 30 ans quoi. Donc voilà, je pense qu'on est tous capables partout dans le monde. Ce qui a été réalisé parfois à Exarchia, on est capable partout.
En discutant avec une enseignante grecque, hein, justement, on s'interrogeait sur les gilets jaunes. Et le pourquoi ça ne prend pas plus, justement, en France. Et c'est très compliqué de répondre. Il y a de multiples facteurs.
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Qu'est-ce qui ne prend pas en France ?
Depuis la Grèce, alors c'est un point de vue d'une personne, peut-être de plusieurs. La question était pourquoi ce mouvement qui a duré une année, voilà maintenant, cet été, on en a discuté cet été, pourquoi ce mouvement n'a pas plus pris de façon massive, n'a pas touché tout le monde, ça ne touche pas tout le monde. Est-ce que je me fais mieux comprendre ?
Tout à fait. Je me questionne aussi sur ces choses-là. Disons pourquoi ça n'a pas pris de façon plus forte. Mais je vois que quelque part, je vois l'expérience de notre village, à Saint-Antonin, et je pense qu'on peut multiplier par d'autres villages et d'autres petites villes à droite à gauche. Quelque part, ça a fait naître des tas, il y a des tas de petits mouvements qui ont germé autour de ça, ça a donné plein d'idées à des gens. Donc, ça germe, un tout petit peu, il y a une feuille qui sort, et puis la terre est dure. Donc, ça a du mal à pousser. Et j'ai l'impression, en ce qui concerne mon village, Saint-Antonin, qu'aujourd'hui, il y a comme un truc. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord, même dans les mouvements d'opposition, on n'est pas toujours d'accord entre nous, et c'est très compliqué de faire jamais quelque chose de commun. Et j'ai l'impression que là, actuellement, c'est peut-être magique, je ne sais pas où le temps passe, il y a besoin de ce temps, de petites choses qui sortent, et à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a un germe là qui est un peu plus fort qu'en train de sortir de terre. Voilà. Je ne sais pas si c'est pareil ailleurs. J'ai ce sentiment-là. Hein. J'ose espérer que ce soit partout pareil.
On verra.
Comment ?
On verra déjà le 5 décembre, peut-être. Hein.
Demain, déjà demain.
Oui, non, mais demain, excusez-moi, demain, c'est gilet jaune, vraiment. Moi, je parle de quelque chose qui regrouperait tout le monde, que ce soit autour des services publics, enfin, on a des intérêts communs, défendre l'hôpital, l'éducation, tous les services publics. Et peut-être qu'arriver à se réunir autour d'un intérêt commun, ce serait intéressant. Je ne sais pas si c'est le cas des Gilets jaunes. En tout cas, tout le monde ne se reconnaît pas dans ce mouvement. Tout le monde ne peut pas y adhérer. C'est un fait. Je ne parle pas spécialement pour moi. C'est un fait. En discutant autour de nous, on s'en rend compte.
Oui. J'aurais même un peu plus optimiste. Je crois qu'il faut voir le chemin parcouru. C'est-à-dire du débat, d'une simple quelque chose de très colère sur des voies ponctuelles. Actuellement, le discours des Gilets jaunes, c'est on a un ennemi commun, c'est le capitalisme. C'était pas du tout ça il y a un an. Quel chemin parcouru dans l'analyse politique il y a eu ? C'est extraordinaire. En même temps, partout dans le monde, c'est en train de bouger. C'est ce qui se passe au Chili, c'est. Et en plus, en même temps, tous les coups d'État qu'il y a fomentés en Amérique du Sud. Hein, moi, je pense qu'il faut beaucoup plus de temps pour que les choses prennent. Hein. Et pour l'instant, ils sont en train de faire la démonstration que la pensée collective et horizontale, c'est-à-dire sans qu'il y ait une hiérarchie, fonctionne et est vachement créatrice. On rentre tout à fait dans la logique qui est défendue à Exarchia dans Saint-Amour. Ce matin, il disait, à la suite des réunions qu'il y a eues à Montpellier, il ne s'adresse pas aux dirigeants des syndicats, il s'adresse aux syndiqués, il s'adresse... le travail qui a été fait dans les commissions, sur le plan de la mise en route de structures qui permettent, ou plutôt qui interdisent la prise de pouvoir, c'est un travail extraordinaire. Je crois qu'il faut... d'où on vient, d'où on part, ça ne va pas se faire dans quelques mois. Quel que soit le résultat de demain ou du samedi.
Ouais. Oui, puis ça me gêne un peu de contingenter les Gilets jaunes comme ça. Parce que c'est comme si il y a eu une bataille des médias contre ce mouvement. Et une salissure, vraiment. Alors qu'il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup de choses qui traversaient ce mouvement et qui le traversent encore. Et moi, je refuse un peu cette idée que les Gilets jaunes sont à part. Il me semble que c'est les gens, les Gilets jaunes, c'est nous tous. Hein, et que on a... Ce que tu viens de dire, je le partage complètement.
C'est qu'un début, pour moi. Ouais.
C'est en train de bouger vraiment, et peut-être que s'il y a beaucoup de monde, le 5 décembre, ce sera aussi grâce à tout ce qui s'est passé cette année, hein, qui a fait bouger les consciences, qui a fait se rapprocher les gens aussi. Hein. C'est pas un hasard s'ils ont voulu absolument que les ronds-points disparaissent aussi, avec toute la solidarité, la fraternité qu'il pouvait y avoir sur ces lieux-là. C'est la même chose. C'est que c'était les lieux qui ne voulaient pas voir germer, qui ne voulaient pas voir se développer. Enfin, faut penser aussi à tout ça.
Moi, je rajouterais que tous ceux qui ont voulu être gilets jaunes, qui se sont sentis touchés par ce mouvement, ils le sont devenus. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient susceptibles d'être touchés par ce mouvement s'y sont impliqués. Ceux qui ont voulu prendre une autre direction à ce mouvement ou le faire pour de mauvaises raisons ont été dégagés ou taillés. Et ceux qui sont restés sont ceux qui, je dis pas que c'est son majorité ou quoi, mais c'est ceux qui ont apporté ensuite une multiplication d'expérience. On retourne sur l'idée de multiplication d'expérience sur un territoire, que ce soit à l'échelle d'une région, d'un département, d'un pays, d'un continent entier, du monde entier. Il y a une multiplication. Voilà, c'est. Un point de départ comme ça, de gens réellement impliqués, il y a eu une multiplication d'expériences, et c'est cette multiplication d'expériences qui est d'autant plus sensible plus tard de créer la suite, quoi. Et de ceux qui resteront qui ne souhaitent absolument pas faire partie du monde de demain, ils mourront avec le mieux du monde.
Mais on s'est souvent posé la question autour de moi. Pourquoi on n'est pas nombreux? Il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes. Tout le monde les approuve. Il y a beaucoup plus de gens qui approuvent le mouvement, qui se sentent solidaires effectivement de cette révolte des pauvres, mais qui ne sont pas forcément dedans parce que peut-être on est pas assez pauvres. Voilà. Et c'est bon, la conclusion qui tournait dans ma famille et autour de nous, c'est qu'on est pas assez pauvres. Pas seulement économiquement, je veux dire, au point de vue relationnel, au point de vue idée d'action pour changer le monde, on en a. Et donc, voilà, peut-être qu'on préfère rester un peu plus dans des réunions qu'aller sur un rond-point où il fait froid. Moi, je crois que c'est pour ça que je ne me suis pas beaucoup bougé dans ce mouvement-là. Voilà. Mais pour autant, bien sûr, ce serait bien qu'on arrive à faire ça. on y essaie.
Une personne qui n'a pas souhaité être entendue à la radio réagit à ses propos et puis parle ensuite de la situation des mineurs isolés dans le département. La discussion s'oriente donc autour de ce sujet.
De toute manière, l'accueil de ces mineurs isolés, c'est quelque chose d'éminemment complexe parce qu'ils ont vécu des choses difficiles, ils ne vont pas forcément très bien. Ils ont besoin d'attention. Ils ont peut-être besoin d'une prise en charge individuelle dans un premier temps avant de pouvoir faire quelque chose ensemble. Enfin, on a approché ce problème cet été, franchement, c'est loin d'être simple. Et pour eux, et pour nous, effectivement. Et nous, étant en zone rurale, les accueillants, on est aux quatre coins. Ces jeunes, ils sont seuls à la maison, avec des vieux, entre guillemets, parce que finalement, les gens disponibles, c'est plutôt des gens retraités que des gens qui bossent, parce que les gens qui bossent, ils ne sont pas chez eux, donc ils ne peuvent pas s'en occuper. Et donc, c'est un vrai problème que de se retrouver avec ces jeunes totalement isolés de leurs compatriotes ou d'autres jeunes de leur âge, effectivement. Mais en zone rurale, on n'a pas trouvé beaucoup de solutions, si ce n'est, de faire des petits regroupements de temps en temps, ou de s'entendre à deux ou trois familles pour que les jeunes puissent passer une journée ensemble. Mais c'est vrai que c'est éminemment complexe à faire. Et effectivement, nous, suite à cette expérience, on s'est dit que c'était plutôt, il vaudrait peut-être mieux effectivement le lieu de vie. Parce que l'hébergement en famille, c'est satisfaisant, enfin, de notre expérience, satisfaisant pour personne, ni pour eux, c'est sûr, très isolés. Ni pour nous, parce qu'on est un peu démunis, on ne sait pas par quel bout attraper les choses.
Nous, on est parti à quatre familles, on s'est retrouvé à deux, parce qu'il y en a deux qu'on déclare. Enfin, je voulais quand même revenir sur un peu d'espoir. Ayant été syndicaliste toute ma vie, il y a des moments où on s'est quand même trouvé bien seul. Hein. Et là, pour la première fois, depuis les ZAD, depuis les Gilets jaunes, putain, ça bouge. Et ça, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. C'est pour ça que je suis plutôt... Nathan, ça n'est pas le temps qu'il faut, mais ça bouge.
Je ne sais pas si c'est grâce aux Gilets jaunes ou grâce à Macron. Hein.
En plus, ça bouge sur toute la terre. Je vois que tout le monde en a marre du capitalisme.
Je voudrais juste apporter un point, c'est ça qui me paraît important, parce que là on est passé de la Grèce, bien sûr, à la France, à l'histoire des Gilets jaunes et tout, et on a tous quelque chose à défendre, bien sûr, sur place et tout, mais comme on le disait tout à l'heure, s'il y a un combat qui doit être pour pouvoir préserver sa dignité sur Terre, enfin en tant que ce que je pense ici on peut appeler une certaine dignité, elle est très très globale, elle est mondiale. Donc ce qui est important, et ce qu'on peut voir à travers ce que fait Yanis, ou ce qu'on peut voir à travers ses films et d'autres films, c'est que quand il y a une entraide qui vient de l'extérieur, ça amène un certain sang-frais. Et il n'y a qu'à voir comment les médias réagissent. Tout de suite, c'est des terroristes. Et je pense que s'il y a un réseau qui se monte, mais qui est un peu plus international, parce que justement ça se passe un peu partout, sur la planète, hein, ça va de Catalogne en passant par... Enfin, je veux dire, on a des voisins. Et si on arrive à monter un tissu ou un réseau qui est un peu plus international, on a peut-être plus de chances de faire quelque chose que de juste défendre juste nos petits droits français et sans regarder ce qui se passe ailleurs, quoi. C'est personnel, hein, mais je le vois plutôt beaucoup plus global que juste ce que nous, on a à défendre ici, quoi.
Alors moi, ça va être un peu du rétropédalage, parce qu'il y a un moment que je lève la main. Yanis, tu parlais tout à l'heure et tu disais que la Grèce était le laboratoire de l'Europe. Et donc l'Europe observait ce qui se passait en Grèce et cherchait le moyen de détruire en Grèce les options qui ne convenaient pas au fonctionnement que j'appellerais ultralibéraliste européen. Et je me demande s'il ne fallait pas aller plus loin que ça, et si déjà cette expérience-là, ils ont tellement peur qu'elle craque, qu'on en est à préférer l'État islamique au Rojava, et d'attaquer une expérience aussi de municipalisme international ailleurs, parce qu'ils ne sont même pas prêts à attendre de voir s'ils arrivent à régler la situation en Europe. Il faut aussi la régler au niveau mondial. et on va préférer traiter avec les immondes salopards plutôt que de laisser une chance à un État de s'installer quelque part qui fonctionnerait de façon différente et de façon plus horizontale. Voilà, c'est à la fois une remarque et une question. Je ne sais pas si tu as une réponse, si quelqu'un a une réponse.
En fait, c'est bien de faire le lien avec le Rojava, parce que même si l'amplitude du problème n'est pas le même, Rojava, il est mort tous les jours, et ça se passe sur 3 cantons différents. C'est une application du municipalisme libertaire, de l'écologie sociale, du féminisme combattant et... combattante, je devrais dire, et d'un antifascisme radical dans une zone qui est quand même pas la moindre en matière d'autoritarisme dans le monde, et de despotisme, de patriarcat, etc. Voilà, même si le patriarcat n'est pas toujours lié à une religion ou une autre, et en France, je pense qu'on a connu notre dû en matière de patriarcat, de voile, de ceci, de cela, et qu'on n'a pas de leçons à donner ailleurs. Et de même que les gilets jaunes avancent chacun à leur rythme, et l'important, c'est l'orientation, la direction qui est prise, et la direction, on la voit, la direction au sens de l'orientation depuis le début du mouvement, elle est claire, quoi, elle est très claire. C'est la même chose pour des personnes dominées d'un bout à l'autre du monde qui avancent vers l'émancipation individuelle et sociale, qui avancent à leur rythme, chacun à leur façon. C'est pas facile de sortir de l'état d'avoir été dominé, manipulé, exploité diversement. Et c'est pour ça qu'il faut quand même faire preuve d'ouverture, d'indulgence et sortir du sectarisme et des pièges dans lesquels on nous place ici ou là en faisant des boucs émissaires de toutes les façons possibles. C'est pour ça que même sur la question du Rojava, bien sûr j'entends toi Eric qui a participé au convoi de janvier juste avant celui-là, petit convoi, là, c'était le premier grand convoi, il y avait aussi Marco, je sais bien que c'est pas ton idée, mais par contre c'est vrai que quand on parle du Rojava, il y a quelquefois des gens qui tout de suite font des insinuations par rapport à l'environnement religieux pour faire des amalgames. Alors que pour nous, au contraire, en Grèce, aujourd'hui, on est sur la question de donner un lieu à l'utopie. En fait, le problème, c'est le topos. Vous avez dit tout à l'heure, par exemple, les copains de Solidaires, ici, de Sud Éducation, vous dites que l'enjeu, c'est d'arriver à rester ensemble après avoir manifesté pour passer du temps ensemble, le temps de l'agapé, le temps de mieux se connaître, le temps de créer des liens affectifs qui pourront être ensuite d'autres types de liens un peu plus construits, un peu plus bâtis. En fait, pour nous, on a vérifié dans ce type de lieu, comme à Exarchia ou même ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de gens d'Exarchia qui sont allés aider le Rojava, y compris des membres de Rouvikonas qui sont allés défendre le Rojava, ou Chiapas également, on a beaucoup de liens avec le Chiapas. Sur ces territoires, il y a l'occasion de vivre ensemble. En fait, sans vivre ensemble vraiment dans ces orientations qui sont les nôtres, telles que l'autogestion, telles que la démocratie directe ou l'anarchie, etc., on peut pas vraiment examiner notre faculté de vivre autrement. Notre faculté de vivre autrement, elle passe nécessairement pour notre faculté de vivre ensemble autrement. Donc, on ne peut pas uniquement être d'un point de vue théorique dans une manifestation, dans des textes, dans des publications, dans des films même. On a besoin aussi de rester un temps ensemble, d'où l'expérience de la ZAD, d'où l'expérience, même des ronds-points, peu importe, même si le rond-point n'est quand même pas la même chose qu'une ZAD et qu'un quartier comme Exarchia. Néanmoins, c'est important d'avoir du temps pour passer. C'est pour ça que quand on fait des soirées, c'est si important de boire un coup ensemble, de grignoter quelque chose, de faire une soupe ensemble. Ça crée du lien. Du coup, vous remarquerez la chose suivante, c'est que ça nous permet d'être plus en confiance les uns avec les autres. On a partagé la soupe, on a partagé le verre, on a trinqué, même ceux qui ne se connaissaient pas. Et du coup, après, on est plus en confiance pour arriver à discuter et s'organiser en cercle, comme ça a été le cas ce soir. Donc oui, pour nous, c'est essentiel, donner un lieu à l'utopie, topos, hein, le problème du lieu. C'est le problème essentiel de l'utopie pour nous. C'est-à-dire, c'est le problème essentiel du rapport au pouvoir aujourd'hui qui veut détruire ces lieux. Hein, qui veut détruire le topos pour détruire l'utopie.
C'est pas un hasard, donc, si on veut détruire le Rojava, parce que c'est un lieu, justement.
Parce que c'est l'imaginaire social, comme disait Cornelius Castoriadis, qui est la clé du changement, en fait. La clé du changement, elle n'est pas seulement l'émancipation matérielle, économique, etc. Elle est aussi, avant tout, dans nos têtes. C'est notre faculté à imaginer un monde différent, à imaginer qu'on puisse vivre autrement, imaginer qu'on puisse être capable de vivre autrement. Et pour cela, on a besoin d'exemples autour de nous. Nous, on a essayé de consigner ces exemples. Quoi qu'il arrive avec Exarchia, on les aura consignés, nous et d'autres, on les aura consignés, ces exemples. Il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus aussi sur Rojava ou ailleurs. Voilà, c'est pour ça que votre travail, les copains de Radio Albigès ce soir, il est important aussi. Quoi. Tous ceux qui font de l'automédia, du média alternatif, et qui donnent à voir, à savoir, à entendre, à voir et à discuter ces différentes expériences qu'on peut mener ici ou là, parce que malheureusement, elles sont souvent éphémères, parce qu'elles sont traquées par le pouvoir, parce que le pouvoir ne veut pas qu'on sache qu'en fait, on n'a pas besoin de lui.
Les révolutions sociales, elles sont traquées. On a déjà vu ça en Espagne, en 1936. Pour le Rojava, c'est la même chose. Donc là, il va y avoir une alliance pour traquer cette révolution sociale.
En Espagne, d'ailleurs, le communisme l'occidentalisme, se sont pris main dans la main,
peu importe
où étaient dans le truc. Ils ont été d'accord. Et les fachos aussi, tout le monde était d'accord.
Et Bismarck et Thiers contre la commune.
Oui, voilà. Bismarck et Thiers, c'est
j'ai le sentiment qu'il y a une chose à vivre aujourd'hui, pas nécessairement se relier dans un grand mouvement, mais ce qui risque d'être le plus difficile aux gens qui tiennent le pouvoir de déceler, c'est une multitude de petites choses qui se passent, d'investissements dans les champs politiques locaux, municipaux, de hameaux, ou des choses comme ça. Et à la limite, ce qui serait intéressant, c'est de mettre en place une espèce de mosaïque de toutes ces petites initiatives. Mais il ne faut pas chercher à ressembler à l'autre, à fédérer un gros truc. J'ai le sentiment que ce qui va être le plus difficile à cerner par les gens du haut, c'est justement une multitude de petites choses qui naissent à droite à gauche. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire personnellement à Saint-Antonin, c'est m'investir dans certains petits domaines, et en espérant que ça donne des idées à d'autres, mais des idées qui ne seront pas les miennes. D'autres idées, et accepter toutes les idées qui soient. Voilà. J'essaie de partager l'idée, là, si j'y arrive. À Sylvain, ça, ce qui m'a énormément, une chose qui m'a beaucoup touché, parmi d'autres, hein, je ne vais pas tout citer, c'est le partage de toutes les idées qu'il pouvait y avoir, tous les milieux différents qui venaient partager des idées ou politiques ou sociales ou des organisations diverses là-bas. Et j'ai vu qu'on se nourrissait tous de ce que chacun apportait. Et chacun apportait sa personne, plus politique, plus sociale, plus sentimentale. Plus... Mais chacun donnait quelque chose à une espèce de cristal qui était là. Je l'appelle comme ça parce que je ne sais pas le localiser. Hein. Et quelque part, on repartait, nous, nourris par cette richesse commune. Voilà, et j'imagine un espace, je reviens un petit peu à l'idée tout à l'heure, investir le champ politique local, c'est l'idée que ce cristal, ben, comme un réseau internet mesh là, où il y a, qui est complètement résilient, s'il y a une maillon qui est cassée, ben, il y a d'autres liens qui peuvent se faire, qu'il n'y ait pas un lieu en particulier qui puisse être détruit, mais qu'il y ait mille lieux tous interconnectés. Bon, c'est peut-être abstrait ce que je dis, mais je cherche des idées autour de ça. Qu'il n'y ait pas un lieu et une idée ou un truc particulier qui puisse être détruit, mais qu'il y ait un système parfaitement résilient. Voilà, c'est tout.
Je pense aussi qu'il faudra une solidarité inter-groupe en plus. C'est-à-dire qu'il faudra penser à aller aider ou sauver les endroits qui seront attaqués tous ensemble. Et là, ça répond peut-être à ce qu'on disait sur les syndicats et les trucs, c'est qu'il y avait plus qu'un problème de représentativité, il y avait aussi d'énormes problèmes d'ego, de gens qui n'acceptent pas ce qu'on disait, le partage, l'échange, accepter les idées des autres et essayer de s'en nourrir plutôt que de les rejeter.
Je crois que quand tu parles d'ego, c'est un des gros problèmes, je pense. Et puis, un autre problème est qu'elle est peut-être en train d'évoluer. Il faut arrêter que les militants pensent que leur lutte à eux est toujours plus importante que celle du voisin.
Et, voilà.
Et quand même, on a bien vécu, en tout cas, moi je l'ai vécu sur le plan syndical, où on est souvent plus fixé sur nos désaccords que sur nos accords. Et ça, les autres en face, pour nous baiser, ils s'accordent. Donc. Il faut s'inquiéter de ça, quoi. Et c'est pour ça que, même si tout le monde n'est pas gilet jaune, il y a des tas de gens qui font à leur niveau des choses qui sont tout aussi subversives et qui se rejoindront. Ça, j'en suis persuadé. Et qui se rejoignent déjà, même à leur corps indépendant.
je voulais revenir sur ce que tu viens de dire, sur se concentrer sur nos accords plutôt que sur les désaccords. Et dans le fond, je suis fondamentalement d'accord avec toi. Par contre, tu vois, expérience personnelle, mardi dernier, donc tu vois, cette semaine, je me suis retrouvé confronté à quelque chose où j'ai pas réussi. J'avoue, je suis allé à une réunion publique, la première réunion publique d'Extinction Rébellion de Tarn. Et l'un de leurs. Je ne suis pas là pour critiquer leur méthode ou quoi, mais. Enfin, là, si, du coup, si. L'un de leurs principes, c'est la non-violence. Et j'avoue, moi, sur ceux-là, il y a d'autres désaccords. Hein. Leur liture. Bon, il y a d'autres désaccords, mais ce point-là, j'avoue que j'ai pas réussi à aller plus loin parce que j'ai eu l'impression de me retrouver à des gens qui protégeaient l'État. Donc, il y a peut-être aussi certains désaccords sont. Et là, peut-être que je manque de recul ou je manque de maturité ou de quoi que ce soit d'autre, mais je n'ai pas réussi à surmonter ce désaccord, je l'avoue. J'ai pas réussi.
Donc il faut continuer à discuter, il faut continuer à se voir.
C'est ce que j'ai fait, on n'a pas lâché le bout de gras, hein, mais. mais on a. Ouais.
Il y a aussi peut-être une question d'expérience, parce que, effectivement, moi je ne défends pas du tout la violence, mais je pense que ce n'est pas nous qui définissons le niveau de violence. Donc à partir du moment où tu peux avoir une posture de non-violence, il y a des tas de mouvements qui s'y sont confrontés et qui se rendent compte que finalement ils ne la maîtrisent pas. Donc c'est peut-être eux aussi qui vont bouger à ce niveau-là. Et donc la discussion peut-être pourra se faire un peu plus tard.
Les Américains, depuis 5 ans, refinancent des études sur le comportement humain parce qu'ils ont une question. Trouver des leaders et les profils, ils savent faire depuis longtemps. Maintenant, ils sont confrontés à un autre problème. Ils savent que ça va exploser partout, c'est en train de se passer, et c'est le problème de la violence. Ils savent qu'il y a des tas de gens qui sont non-violents, mais qui estimeront légitime le recours à la violence et qui seront prêts à aider des violents alors qu'eux-mêmes sont non-violents parce qu'ils estiment cette violence légitime. Ils sont en train de payer des recherches dans les grandes universités américaines pour pouvoir profiler ces gens-là. Donc, on est bien dans un signe des temps. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la violence, c'est quelque chose que je ne supporte pas, qui me paralyse, mais je la comprends. Je comprends les gens violents face à la violence d'État.
Pas les gens violents, c'est une colère qui est légitime,
oui.
C'est une réponse qui est légitime. Je suis d'accord avec le mot légitime que tu prononces. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait des gens violents et des gens non violents qui vont peut-être. C'est notre réponse qui est légitime. Mais sinon, surtout si elle est politisée, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de se lancer dans une réponse sans queue ni tête. Non,
non, je suis d'accord, je dis simplement, moi je ne suis pas capable de ça.
Alors, pour aller dans ton sens, et pour parler de mon expérience personnelle, moi je suis, on va dire, un fils de bourgeois, je n'ai pas eu de soucis, j'ai eu une vie facile. Je me suis toujours posé des questions quand même, avec des parents qui étaient plutôt de gauche et plutôt. Humaniste, on va dire, et je faisais confiance à l'État, je faisais confiance à la police, je faisais confiance à la force, et jusqu'à 50 ans, même plus, la non-violence était plutôt ma référence. Et j'ai été confronté à Sivens, et je suis allé à Sivens. En anecdote, au départ, j'étais pour le barrage parce que je trouvais que c'était sympa d'avoir un plan d'eau dans le coin. Donc voilà, comme quoi on peut changer.
Je sais le courage,
et en fait.
Moi, j'aurais pas eu les couilles.
Et en fait, je me suis retrouvé en face de gens payés par l'État et qui, sans aucun état d'âme, pouvait foutre sur la gueule à une vieille grand-mère au milieu d'un champ qui présentait visiblement aucun danger et juste parce qu'on était là et que ça allait déranger et qu'il fallait faire un exemple. Et à partir de là, moi, je me suis retrouvé extrêmement violent jusqu'au point d'espérer me retrouver face à face seul avec un de ces mecs-là et de le tuer. Et je me suis dit, voilà, je suis une bête comme les autres bêtes. Et tout le monde peut être une bête et tout le monde peut devenir violent si la cause ou si la. Comment on pourrait dire. La valeur fondamentale de la chose qu'on défend me le demandait. Et en même temps, j'ai été démoli, il m'a fallu un mois pour me remettre, et en même temps, je me suis dit, eh ben voilà, t'as appris quelque chose, t'as appris que voilà, on n'est pas dans un mode de bisounours, et... Pardon, j'ai fini.
Je voudrais que faire attention à la définition de la violence. Je crois que vous voyez la violence avec les jeunes qui jettent des cocktails de Molotov ou des pavés. Il y a des violences qu'on ne voit pas. Quand l'État retire les bourses aux étudiants, quand il enlève les soins aux personnes qui en ont besoin, c'est de la violence, la très grande violence. Et je crois que face à ça, il ne faut pas avoir peur d'utiliser la violence pour le stopper.
Mais moi, je voulais dire que le type qui a son uniforme, je n'aurais jamais aucune violence sur lui. Je n'aurais jamais me trouver face à face, lui faire du mal, même lui donner une petite gifle. Et je ne sais pas les états d'âme qu'il a, parce que c'est pas mon problème. Par contre, l'uniforme lui-même, le symbole, la relation d'oppression qu'il y a, là je suis prêt à me battre, et je fais que ça, quoi, de me battre pour l'idée, contre les lobbies, contre pour les causes, pour la justice. Mais dans tous ceux que j'ai affrontés ou qui sont momentanément peut-être pas dans mon avis et qui peut-être servent une cause qui est complètement contraire à celle que je cherche, c'est pas les gens. Contre les gens, je serai toujours non-violent. Que ce soit ici, si on n'est pas d'accord tout à l'heure, que ce soit derrière celui qui a contre l'uniforme. Et quand on dit que le conflit est utile, on entend souvent ça dans nos milieux, le conflit il est utile, oui, dans la mesure où on défend ses positions, où on lâche rien au lobby, aux autres, où on est ferme sur nos engagements. Mais par contre, le conflit humain qui a l'envie de détruire l'autre, la personne, il n'est jamais utile. Je suis non violent. C'est toujours destructeur pour les deux.
Malheureusement, ils ne comprennent que comme ça pour le moment. Voilà.
Alors moi, science, ben, en principe, je suis petite et vieille. Donc, on ne se méfie pas de moi, quoi. C'est pas...
Moi
j'avais décidé, on manifestait pour empêcher, on n'y arrivait pas, hein, les travailleurs de travailler, on voulait les empêcher. Alors moi j'avais décidé que je me mettais, donc, et on était plusieurs vieux comme ça, hein, on avait fait une rangée de vieux pour protéger les jeunes. Voilà. Mais bon, ils s'en foutaient, ils n'aimaient pas, quoi. Et moi, j'avais décidé, bon, qu'est-ce que je peux faire qu'ils ne soient pas trop violents. J'avais décidé de toute façon que je poserais mes pieds sur un CRS, quoi, derrière, et j'avancerais avec lui. Bon, donc, j'ai posé mes pieds, et je me suis basculée un peu pour être appuyée à leur... Comment ça s'appelle ?
Bouclier,
quoi. Et je fais toute la manif comme ça. Et le mec, il tremblait, quoi. Il était... Et moi, je tremblais pas. Je trouvais que c'était assez reposant, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu peux arrêter. Et je suis allée m'asseoir dans un coin. Voilà. Et là, les policiers sont arrivés. Ils voulaient me ramener chez moi, quoi. Vous pouvez rester ici, vous êtes fatigué et tout. Alors je voulais me reposer, je ne voulais plus rien faire, quoi. Et je dis, mais non, moi je veux rester. Et ben, bien que je sois vieille, âgée et tout, bon, ils m'ont traînée du pré tranquille où j'étais, juste pour l'un des autres, ils m'ont traînée par les cheveux sur le. Voilà. Aucune douceur.
Il n'y a pas de souci.
Bon, là. Mais c'était
pas quand même.
Bon, il m'est arrivé la même chose quand j'ai voulu aller en Palestine, puisque on m'a pas laissé passer, on m'a tiré par les cheveux pour me ramener à l'avion, on m'a balancé contre les. Donc j'étais habituée, ça m'a pas changé, quoi, c'était pas. Et voilà. Mais le problème, c'est que quand on voit quelqu'un, on le juge sur son physique. Et on ne peut pas savoir. Il y a peut-être des grands et tout qui ont peur, quoi.
Et, oui.
Oui. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas vraiment peur, quoi. Voilà. C'est comme ça. Et j'ai une envie de lutte, mais je ne sais pas comment expliquer. Je ne veux pas faire vraiment du mal, mais je veux qu'ils comprennent que j'existe et que je suis comme ça, quoi. Voilà.
Et que tu vaux autant que...
Je ne sais pas.
Bien sûr, en moins, en moins.
Je ne me compare pas, je suis comme... Je dois dire que la première chose que j'ai fait, c'était au cours moyen, et c'était la chanson du déserteur. C'est là que j'ai découvert, mon père était militant, quoi. Et alors, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de... Donc je recopiais le déserteur, et de temps en temps, je passais sous les portes. Voilà. Et j'étais au cours moyen.
Première action militante.
Je voulais juste dire, avant d'oublier, vu que Patrice parlait tout à l'heure de violence qui ne se voit pas, plutôt pour ceux qui ferment les yeux, mardi prochain à 13h, à Champollion, il y a un appel étudiants et enseignants en hommage à ce jeune qui s'est immolé à Toulouse pour tenter de se suicider. J'ai dit Toulouse, pardon, oui. Lyon, excusez-moi la fatigue, bien sûr à Lyon. Voilà, donc en soutien de notre camarade et de son message politique, on sera rassemblés à Champollion à 13h mardi prochain. Voilà, c'est juste pour ne pas oublier de dire.
C'est un message politique ? Non, ils ont dit que non, Macron.
Cas particulier.
Je rappelle quand ?
Devant le restaurant qui vient
mardi 13h. Mardi 13h au restaurant universitaire Champollion.
Concernant la question de la violence, je pense qu'il faut qu'on distingue, qu'on soit partisan ou pas, d'aller jusqu'à un certain degré, distinguer la question de la dignité et la question de l'efficacité. En fait, il y a un double débat qui existe entre les différentes composantes du mouvement social, qui se respectent en général, mais qui quelquefois connaissent des tensions depuis longtemps. La question de la dignité est une question qui est indépendante de l'efficacité, qui pose celle de savoir dans quelle mesure on reste soi-même, on reste digne en l'occurrence, face à ce qui nous arrive. Donc, par exemple, c'est la formule « vivre debout »,« mourir debout », même, pourquoi pas, qui a été formulée à bien des époques par des opprimés, par des esclaves, par des résistants, sous des occupations, par exemple. Donc, la question de la dignité. Après, il y a la question de l'efficacité. Et sur la question de l'efficacité, il y a des divergences de points de vue entre les différentes composantes du mouvement social. Ici ou là, on voit, selon les régions ou les pays, une dominante quand même plutôt favorable à un point de vue qu'à un autre. Par exemple, Extinction Rebellion marche bien au nord de l'Europe, alors que, par exemple, dans des régions comme la Grèce, ça marche pas du tout, ça prend pas du tout. Évidemment, là, on est sur le front des luttes. Tout à l'heure, il a été dit que, et c'était très juste, que Clément disait qu'en Grèce, par exemple, les camarades et compagnons ne se reconnaissent pas dans le fait d'être plus forts, plus en pointe, plus résistants, etc. Par contre, en même temps, il faut bien reconnaître que depuis 10 ans, la ligne de front du durcissement du capitalisme, de la question des migrations en Europe, ou encore de la violence vis-à-vis du quartier plus récemment, d'un quartier moteur, d'un quartier laboratoire, c'est vraiment trouvé là-bas plus qu'ailleurs, même s'il y a d'autres fronts en Europe, c'est quand même été le front principal de ces dernières années. Et donc, par conséquent, on est allé au-delà de la question de la question de la dignité sur la question de l'efficacité face à des problèmes concrets qu'on trouvait devant nous. En fait, actuellement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des drones et des hélicoptères qui surveillaient nuit et jour le quartier, parce que tout simplement, l'organisation de la défense du quartier, ce n'est plus un secret maintenant. D'ailleurs, on vous a déjà montré des vidéos par le passé. On en montrera dans le prochain film. Des vidéos qu'on ne vous avait pas montrées auparavant pour ne pas dévoiler nos façons de nous défendre. Donc plus, malheureusement, Exarchia sera détruite en partie ou totalement par le projet actuel du gouvernement. Plus, à la sortie du film en début 2020, on vous montrera des choses qu'on ne vous a jamais montrées par rapport à ça. Donc la défense par les toits, par exemple, est une défense extrêmement violente, qui utilisait non seulement le cocktail Molotov, mais beaucoup d'autres choses, auxquelles participaient pas seulement des membres du mouvement social, mais aussi des personnes âgées, des habitants du quartier, pas tous, hein, loin de là, mais quand même beaucoup, y compris avec leurs propres pots de fleurs ou d'autres choses qu'ils avaient amassées sur les balcons. Moi, j'ai vu des mémés qui prenaient des briques et qui prenaient différentes choses, qui les montaient. On ne descendait pas les gravats. Les gravats, on les garde sur le balcon, quoi, je veux dire, sur la terrasse. Voilà, volontairement, on garde toutes sortes de choses. Et même les poutres, quand il y a eu des travaux, généralement, on les garde pour pouvoir passer d'une terrasse à une autre. Ça existe. Et autour de la place, en particulier, de la place triangulaire d'Exarchia, la plupart des terrasses étaient un accès possible pour le mouvement social, de façon à faire ce qu'a bien connu Clément avec Dylan une année. Le fait de se retrouver piégé sur la place, encerclé en fin de nuit d'émeute par les policiers. Et qui ont vu à la fois la police rentrer, mais essayer de sortir très vite quand même, parce qu'elle était sous un déluge de feu des terrasses autour. Et c'est, si Exarchia a réussi à tenir autant d'années, c'est aussi parce qu'il y a eu une résistance très forte de ce côté-là. Par contre, ce qui est certain, et là j'en conviens, c'est que si Exarchia a tenu autant d'années, c'est surtout parce qu'Exarchia a produit. C'est-à-dire qu'en matière d'alternatives, en matière d'autogestion, en matière d'exemples de toutes sortes, il y a plein de gens, et notamment plein de jeunes qui sont à Exarchia, de Grèce, d'Athènes, mais aussi d'ailleurs, pour aller y voir plus de plus près, donc aller boire des coups, aller écouter de la musique, aller voir des spectacles vivants, etc. Puisque Exarchia, c'est la première scène culturelle à Athènes, en fait, en termes de création. C'est-à-dire que beaucoup des plus grands chanteurs et musiciens grecs sont passés par Exarchia, en matière même de cinéma alternatif, créatif, etc. Dans Exarchia, on a bien sûr aussi l'édition des principales œuvres contemporaines et depuis quand même pas mal d'années en matière d'œuvres politiques qui donnent à réfléchir sur notre société. Et donc c'est aussi ça qui fait que les gens sont allés à Exarchia, puis pour aller voir de plus près, comme les gens qui sont venus en convoi, aller voir de plus près concrètement comment ça fonctionne un dispensaire médical autogéré, comment ça fonctionne des espaces sociaux libres de différents types qui ne sont pas toujours d'accord entre eux sur leur façon de fonctionner, et où comment ça se passe aussi, un lieu très politisé pour l'accueil des migrants, où ils se prennent eux-mêmes en charge avec notre soutien, notre solidarité. Donc en fait, il y a un mélange des deux, quoi. Donc je pense qu'il faut distinguer, en tout cas, la question de la dignité tant individuelle que collective face à la violence qu'on subit, et donc qui peut employer ou pas la violence. Pour les uns, la dignité va correspondre au fait de ne pas tomber dans le piège de l'autre. Par exemple, pour Jean, je suppose que pour lui, ne pas répondre à la violence par la violence, ne pas, comme le disait par exemple Badinter en septembre 80, quand il y a eu l'abolition de la peine de mort en France, son argument principal c'était ne pas substituer à la barbarie du crime la barbarie du châtiment. Et bien, c'est un petit peu la même chose. Il y a des camarades non-violents qui considèrent que d'une certaine façon, tomber dans la violence, c'est tomber dans ce piège-là, dans cette logique-là, et dans laquelle, en plus, sur le plan d'efficacité, on perd forcément d'après eux, et il y en a beaucoup qui me le disent, parce que c'est vrai que le pouvoir en face de nous, il a beaucoup plus de moyens. Regardez les moyens du pouvoir aujourd'hui. Et je pense que c'est d'ailleurs un des points qu'on pourra aborder avant de clôturer la discussion. C'est quand même l'évolution du pouvoir, de ses moyens, de l'État en particulier, mais aussi du pouvoir en général, face à nous, pouvoir, le moyen technologique dont on parlait tout à l'heure, certains d'entre nous, hein, mais aussi l'évolution du monde et l'urgence qui n'était pas la même il y a 150 ans, quand nos ancêtres, nos aïeux, dans les luttes, écrivaient des textes majeurs et des internationales majeures qui sont des points de repère aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, sur le plan écologique, tant sur le plan écologique que sur le plan technologique, il y a une urgence, une course contre la montre. Nous sommes dans une course contre la montre face au pouvoir, et c'est une question d'années, sans doute, que de résoudre ce problème, quelle que soit la façon.
On parlait depuis longtemps, très longtemps, très longuement de la violence, mais on n'a pas défini qu'est-ce qu'on considérait comme de la violence. Effectivement, moi je parlais de la violence par rapport aux personnes sur lesquelles je ne veux jamais être confronté. Par contre, si on me dit que d'aller détruire un bien qui est manifestement néfaste, même si les propriétés privées, s'il faut aller faire un squat ou forcer une porte, pour moi c'est pas de la violence, donc c'est important quand même, quoi. Voilà.
Mais pour eux, même la non-violence, c'est de la violence.
Je serai accusé de violence, mais je ne vais pas parler longtemps de être pour ou contre la violence si on ne définit pas qu'effectivement, pour eux, s'en prendre au bien à la propriété privée, c'est de la violence. Pour moi, ça ne l'est pas. Et par contre, quand je parle effectivement que le conflit est toujours destructeur, c'est le conflit interpersonnel. Dans une lutte, comme d'ailleurs dans des relations à l'intérieur d'une association ou en famille, voilà, pour préciser les choses.
Je précise, pour éviter le malentendu, d'abord, Jean, je sais, on a même fauché des OGM ensemble, donc on en sait quelque chose. La lutte par un certain degré de violence qui est considéré comme tel par certains, parce que c'est vrai que la propriété privée, c'est la pierre angulaire de notre société. Donc là, on touche à quelque chose de sacré. Et en même temps, tu vois, le groupe qu'on soutient le plus, je pense, aujourd'hui en Grèce, qui est vraiment le cœur du débat en Grèce, hein, dans l'élimination d'Exarchia, la volonté de frapper ce groupe qui dérange le plus le pouvoir, le groupe qui dérange le plus le pouvoir en Grèce, c'est pas les rares petites organisations révolutionnaires qui posent vraiment des bombes et qui mettent en danger les vies humaines. Comme par exemple, là récemment, il y a un groupe qui s'appelle Autodéfense Populaire qui a été arrêté en partie, sauf une personne en fuite, pour avoir blessé quelqu'un devant l'ambassade de France et aussi posé une bombe à l'ambassade du Mexique, en solidarité avec le Chiapas et en solidarité avec le mouvement social en France, c'était en 2016. C'est pas ces groupes-là qui les dérangent, c'est des groupes comme Rouvikonas, le groupe principal, et vous pouvez le vérifier en Grèce, les infos, les machins, tout ce qui tourne. Le bras de fer du pouvoir est plutôt avec un groupe qui justement dérange parce que paradoxalement il ne va pas jusqu'à un certain degré, il pratique ce qu'on appelle la propagande par le fait, hein, une vieille méthode plutôt anarchiste, l'action directe aussi, mais la propagande par le fait, mais sans aller jusqu'à l'élimination physique des représentants du pouvoir, ceux qui prétendent nous gouverner, et par contre pratique la destruction des bureaux de privatisation du bien commun, des fichiers des surendettés, de nombreux lieux de l'exécutif, tant par rapport à la question de l'efficacité que par rapport à la question de la symbolique, puisque le pouvoir est avant tout une entité symbolique. C'est par sa symbolique qu'on sombre dans la servitude volontaire à son égard. Et donc, par conséquent, l'action de Rouvikonas, c'est... Je montre le t-shirt. C'est pas du... Je sais pas, parce que c'est mon point de repère ici. L'action de Rouvikonas... C'est 15 euros acheté. L'action de Rouvikonas, qui est une action à 220 actions depuis 5 ans. Il y a eu deux jours de conférences, débats, rencontres avec le public, ouvertes à tous, entrée libre, ouverte à tous. Plein de gens au Théâtre Ébros, le plus grand théâtre autogéré du centre d'Athènes, à l'extérieur d'Exarchia. Et pendant deux jours, énormément de discussions, de débats assez extraordinaires. Et un certain nombre de membres de Rouvikonas qui ont bien voulu afficher leur appartenance en public, une petite dizaine. Et donc, dans ce cadre-là, sachez qu'aujourd'hui en Grèce, d'ailleurs, on en est à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vouloir classer en organisation terroriste une organisation, un groupe qui ne pratique même pas la violence sur les personnes, en fait. Hein. Donc ça montre à quel point le pouvoir quand même est perturbé par un certain degré choisi, utilisé, qui a l'air de très bien fonctionner avec une aura dans l'opinion publique assez énorme. Parce que par exemple, le groupe se revendique comme anarchiste, même si en son sein, il n'y a pas que des anarchistes. Mais par contre, il faut savoir que les sondages électoraux du printemps dernier ont proposé de Rouvikonas parmi les partis pour lesquels les gens pourraient voter. Rouvikonas, même pas la fédération anarchiste grecque dont fait partie Rouvikonas, qui est une fédération anarchiste un peu particulière, qui est avec beaucoup de courants, de composantes différentes. Et Rouvikonas a fait environ 12% dans les sondages, alors que les anarchistes, ils se déclarent pas, enfin ils proposent pas de répondre. D'abord, ils répondent pas aux sondages, et ensuite, ils sont pas pour le vote, donc pour les élections en général, sauf des cas particuliers, des choix personnels, etc., par stratégie. Et donc, en l'occurrence, quoi, on arrivait à vérifier une cote de popularité énorme, y compris sous cette forme-là. Moi, j'ai déjà témoigné par le passé, j'en finirai là-dessus, lors de soirées, de soirées match, par exemple, pour amener mon fils Achille voir un match dans un café Nio, à plusieurs reprises, j'ai pu vérifier, lors du breaking news à la moitié du match, montrant ce qui se passait dans l'actualité, donc une nouvelle offensive de Rouvikonas qui avait à nouveau, par exemple, détruit le fichier des surendettés, brouhaha dans la salle de café Nio, enfin, les gens étaient exultés, quoi. Ouais, ils ont réussi, bravo les gars, etc., etc. Donc il y a peut-être quelque chose à gratter de ce côté-là, c'est-à-dire une forme d'action radicale, mais qui tomberait pas dans les pièges dans lesquels veut nous tendre le pouvoir, c'est-à-dire pour nous mettre systématiquement en prison. Donc il y a un jeu du chat et de la souris de Rouvikonas par rapport au délit et au crime. D'ailleurs, on avait eu le problème se poser lors du deuxième assaut contre le Parlement grec, qui était peint en rouge et en noir par Rouvikonas plus des fumigènes au mois de mai. Et à cette occasion, l'État a retrouvé un vieux texte de loi pour le faire passer en crime au lieu de délit, de façon à être beaucoup plus sévère au niveau de sa répression et de tout ce qui allait avec. Et donc, mais en général, Rouvikonas arrive très bien jouer sur la ligne très très étroite, avec beaucoup de conseillers juridiques, beaucoup d'avocats, etc., qui sont dans le mouvement pour jouer là-dessus, sur ce terrain-là. Et en même temps, joue très bien le terrain de la communication. Vous avez vu, peut-être dans L'Amour et la Révolution, la façon façon dont Rouvikonas passe systématiquement aux infos. On ne parle pas d'anarchie aux infos en France. Quoi. En Grèce, c'est presque tous les jours que, en raison de la pression, de l'importance des événements qui sont produits, des actions qui sont produites, qui ne peuvent pas être masquées, cachées, en raison des vidéos qui sont mises en ligne en Creative Commons, chacun peut les utiliser, il y a une course à l'info, et puis les gens veulent de ce genre d'infos, donc forcément les médias les proposent. Et les médias ne les boycottent pas, alors qu'en France, on a un énorme problème pour faire passer de l'information, on est systématiquement boycotté quand on ne boycotte pas nous-mêmes les médias du pouvoir. C'est vraiment un rapport de force différent. Donc je pense que même si la Grèce aujourd'hui est au bout d'un cycle peut-être en matière de ligne de front, parce que tout simplement le front maintenant il est vraiment définitivement partout en Europe sur le durcissement du capitalisme qui se confirme ici notamment par nos camarades syndicaux, hein, dans les syndicats. Néanmoins, il y a un savoir-faire dans ce domaine, je pense qu'il devrait être un peu plus repris, exploité. Il faudrait beaucoup réfléchir à ces méthodes de lutte qui sont utilisées par certains groupes en France quand même, mais pas beaucoup, et qui mériteraient peut-être d'être approfondies. Quoi.
Quelqu'un qui n'a pas souhaité être entendu à la radio dans l'Assemblée pose alors la question du parti nazi Obdoré. Où en est-il à présent ?
En fait, Obdoré, il faut savoir quand même qu'il y a la réalité et puis il y a le mythe. Obdoré est arrivé sur la scène publique à cause d'un concours de circonstances et a commencé à être effacé de la scène très lentement au bout de 2 ans. Mais ça n'a jamais été dit. Obdoré était un groupuscule jusqu'en 2011 à moins de 1%, comme d'autres groupuscules en France et ailleurs. À l'origine, dans les années 80, une revue néo-nazie avec Himmler, Goebbels, Hitler et d'autres... Joyeuse Beer en couverture. Progressivement, à force d'actions violentes, il s'est fait une image dans une partie radicale de l'opinion concernant le racisme, l'antisémitisme, et aussi l'homophobie beaucoup, et également le machisme. Mais sans jamais percer. Il se trouve qu'en 2011, après la démission du Premier ministre Georges Papandréou, le président... qui n'a qu'une fonction constitutionnelle mineure en Grèce, n'a pas provoqué des élections pour le remplacer et a choisi de nommer au pouvoir un Premier ministre avec un gouvernement de transition, de cohabitation, on va dire, en plus, pendant quelques mois. Ça a duré 9-10 mois. Et ce Premier ministre de transition, c'était Lucas Papademos, un banquier d'ailleurs, un ancien de Goldman Sachs, qui était membre du PASOK, et qui avait au sein de son gouvernement des membres de la droite, des membres de la gauche, enfin du PASOK, je ne sais pas s'il faut dire la gauche, et de l'extrême droite. En l'occurrence, à l'époque, le parti principal, c'était le Laos. Depuis 2001, depuis l'abolition de la suppression de la mention de la religion sur la carte d'identité en Grèce, parce que jusqu'en 2001, il y avait la mention obligatoire de la religion sur la carte d'identité. On a vu l'essor d'un petit parti d'extrême droite, identitaire, basé sur la religion orthodoxe, sur l'identité orthodoxe grecque. Laos, d'ailleurs, c'était l'acronyme de peuple, voulant dire que l'identité grecque était forcément orthodoxe, qui était né en 2001 sur ces bases, dans cette bagarre-là, et qui, jusqu'en 2011, était le mieux placé à l'extrême droite, atteignant jusqu'à 7%. Et en fait, à partir de 2011, il a participé avec 4 ministres ou secrétaires d'État au pouvoir pendant quelques mois. Et il s'est cramé, il s'est grillé dans son électorat. C'est-à-dire qu'il a participé en quelque sorte à la bande des 3 ou des 4. Et donc, il a été remplacé électoralement lors des élections suivantes, en mai 2012, lors des élections suivantes. Les premières élections, puis les deuxièmes élections de juin 2012, puisqu'il n'y a pas eu de gagnant en mai 2012. Et en juin 2012, c'est Tsipras qui a perdu devant Samaras. C'est la droite qui est passée. À l'époque, Obdoré fait 7% quasiment, remplace le Laos, qui tombe au score d'Obdoré, c'est-à-dire environ 1%. En fait, c'est comme ça qu'Obdoré a surgi. Obdoré a surgi en raison de l'opportunité du discrédit du principal parti d'extrême droite devant lui, tout simplement. Donc il a remplacé, en vase communicant, les gens ont pris quelque chose de plus radical, des gens qui étaient à l'extrême droite, qui ont voulu aller chercher ceux qui n'avaient pas été essayés, on va dire. En 2013, Il y a eu pas mal de violences contre des syndicalistes, notamment à l'ouest du Pirée. Il y a eu des violences, beaucoup de ratonnades contre des migrants, notamment une mort célèbre, celle de Chouma Lekman et de Pavlos Fissas, un grec. C'est surtout à cause de l'assassinat de Pavlos Fissas en septembre 2013, quelques mois après le Pakistanais Lukman, que les gens ont enfin réagi, parce que malheureusement c'était un grec, qu'il était très peu connu, mais bon, un petit peu en tant que musicien, rappeur et membre du mouvement social. Et donc par conséquent qu'il y a eu une prise de conscience d'une partie de la population qui a combattu encore plus vivement ce parti. À partir de 2014, il est encore puissant, il fait quand même 9% aux élections européennes, mais après avoir été attendu à un score presque double de ça, hein, il était attendu autour de 15%, finalement il fait 9%. Et après, vous pouvez vérifier sur Internet, à partir de 2014 jusqu'à 2019 aujourd'hui, en 5 ans, il n'a jamais cessé de perdre des voix, non pas seulement en pourcentage, mais en nombre de voix. Hein, je parle de nombre de voix. Alors pourquoi ? Parce qu'il a été combattu avant tout sur le terrain. En fait, on nous raconte en ce moment que c'est grâce au travail des médias mainstream. Par exemple, en Grèce, il y a vraiment une énorme théorie absolument invraisemblable qui laisse croire qu'il y a eu beaucoup de débats, de la culture sur le sujet, de l'information sur le sujet, qui a permis aux gens de prendre conscience de ce qu'était Obdoré. C'est complètement bidon. Ces gens-là ont été invités régulièrement sur les plateaux télé, un peu comme en France, avec les résultats qu'on connaît. Hein. Ça leur permet d'être cautionnés, on va dire, en quelque sorte, et puis de s'exprimer, de dire des choses qui normalement ne devrait pas être acceptable, hein, puisque autant on est pour la liberté de penser, autant la liberté d'expression, quand elle est publique et quand elle menace la vie de certains d'entre nous, il faut se poser la question de la priorité, hein, la liberté de vivre des uns ou la liberté de s'exprimer des autres quand ils menacent la vie des premiers. Et donc, la deuxième théorie qui a été diffusée, qui est totalement invraisemblable aussi, c'est le fait qu'il y a eu un procès, qui est toujours pas terminé aujourd'hui, concernant les meurtres notamment de Lukman ou de Fissas. Et donc un procès monstre d'Obdoré en tant qu'organisation criminelle. En fait, c'est également une théorie bidon, puisque pendant le plus clair de ce procès, les responsables ont été relâchés. Le principal assassin s'est retrouvé avec un bracelet électronique chez lui, à l'abri, protégé par la police d'une vendetta antifasciste. Donc c'est plutôt à son avantage d'avoir été chez lui avec un bracelet électronique. Et les autres ont pu retourner au Parlement, carrément, puisqu'ils étaient presque une vingtaine au Parlement. Et donc le Parlement, au niveau politique, la question n'a pas du tout été réglée, puisqu'ils ont continué leur mandature jusqu'au printemps cette année. Ils étaient toujours présents au Parlement. Et au niveau du procès, le procès a été retardé à nombreuses reprises, et au bout de 6 ans, on arrive seulement, il y a une semaine, à la plaidoirie en deux jours du principal chef d'Obdoré, Mikhailo Lakos. Mais en fait, les autres sont passés avant, un seul jour en général. Et donc on attend le rendu de la procureure, parce que c'est une procureure, en janvier, et le verdict au printemps seulement. Donc au printemps 2020, par rapport à cette affaire. Donc tout a été fait pour la retarder. Donc au niveau juridique, ça n'a eu aucun effet en réalité. Au niveau politique, il n'y a rien qui a été fait. Ces gens-là se retrouvent au Parlement comme avant, etc. Dans les médias, ils ont continué à avoir le tapis rouge. Donc en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une lutte antifasciste énorme en Grèce. Pardon de ramener la couverture au mouvement antifasciste, mais là, la chose est extrêmement claire et les preuves sont irréfutables. Le mouvement antifasciste qui, à partir de 2013, voyant ce qui se passe avec Obdoré, et surtout de 2014, reprend le quartier principal d'Obdoré dans Athènes, qui est le quartier d'Oios Pantelémonas. Et ça, c'est l'un des faits d'Exarchia, c'est-à-dire que la plupart venaient d'Exarchia, et notamment du groupe Rouvikonas, qui a créé une entité dont il est la partie principale, c'est Distomo, le groupe Distomo, du nom du village qui est un peu l'équivalent en Grèce de Radour-sur-Glane, un village qui a été entièrement rasé par les nazis. Distomo est composé en majorité de membres de Rouvikonas, de membres qui viennent d'Exarchia, mais aussi d'autres composantes qui utilisent aussi le drapeau autre que le drapeau rouge et noir, ou noir, par exemple drapeau rouge. Et donc il y a un mélange d'Estomo qui est vraiment très chouette, et ce groupe a réussi à prendre le contrôle de ce quartier autour d'une église intégriste à Ios Pantelémonas,
à ouvrir un local dans cette, autour de cette place. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont venus avec moi sur cette place pour des cuisines populaires, Costas qui faisait la cuisine sur la place, etc., ont pu voir qu'il y a une majorité de migrants sur cette place, des enfants qui jouent au ballon, des gens qui se rencontrent, des Grecs, des migrants qui sont ensemble, etc., et que le groupe antifasciste, il domine sur les murs et partout le quartier, que les fascistes n'ont plus du tout le contrôle de la situation, ne peuvent plus faire des ratonnades comme autrefois, et qu'il y a une très bonne relation avec le quartier. Là, on est allé encore récemment avec Maud par rapport à ce qui se passe sur place avec les migrants, et notamment les enfants migrants qui étaient terrorisés autrefois. Les choses ont beaucoup évolué. Ça, c'est vraiment un exemple majeur parce que c'était le cœur de la base de Doré à Athènes. À partir du moment où la base a été détruite, progressivement, les locaux d'Obdoré ont été attaqués un peu partout en Grèce. Et par exemple, en Crète, il y a deux ans et demi, je vous signalais dans ma lettre d'info qu'il n'y avait plus de locaux d'Obdoré en Crète, par exemple. Et progressivement, dans plein de régions de Grèce, c'était la même chose. Donc en fait, il y a eu une action très puissante, très forte du mouvement social. Je dis du mouvement social parce qu'en Grèce, le mot antifascisme ne pose aucun problème. En France, quelquefois, le mot antifascisme provoque des gênes par rapport à la question de la violence, par rapport à la question de sectarisme, de l'intégrisme, d'une idéologie qui serait en quelque sorte le miroir du fascisme à l'envers, etc. Enfin, toutes sortes de théories plus ou moins fumeuses sur la question, mais discutables quand même. Et en fait, en Grèce, ce n'est pas du tout le cas. En Grèce, quand vous êtes syndicaliste, par exemple, quand vous êtes de gauche, au sens large du terme, et même écologiste, vous êtes forcément antifasciste. Vous êtes forcément contre quelque chose qui est encore pire que le fascisme, puisque c'est le stade ultime du capitalisme. Pardon, qui est encore pire que le capitalisme, puisque c'est le stade ultime du capitalisme. Le fascisme, c'est la société autoritaire qui se crispe quand elle n'arrive plus à bercer la population d'illusions. Et dans ces cas-là, ben, elle va jusqu'au bout de sa logique. C'est le masque qui tombe, tout simplement. Et c'est une entité en plus qui fonctionne très bien avec le régime, notamment en tant qu'auxiliaire de police, par exemple. Et donc, par conséquent, où elle permet aussi de faire peser l'échiquier politique, de faire peser le spectre politique en termes d'opinion vers quelque chose qui est plus acceptable par rapport au pouvoir. Par exemple, quand l'Europe forteresse est très sévère envers les migrants, etc., tout à coup, on voit débarquer un Cestar en Méditerranée avec des fans d'Europe qui se baladent tranquille sans que personne n'intervienne, qui arrive à aller jusqu'au bout de sa croisière, mais qui quand même est bloqué partout par les antifascistes en Méditerranée, qui est obligé de rentrer, mais qui finalement n'a pas du tout été dérangé pour cette action, tout simplement parce qu'il a permis de diffuser une propagande contre les navires de sauvetage, et de cette façon a réussi à rendre service à l'Europe forteresse en faisant peser un peu plus l'opinion dans ce sens-là, de façon à placer en tant qu'arbitre, en tant que centre de gravité, l'opinion dominante, celle du pouvoir et celle que veut fabriquer le pouvoir au moyen de la fabrique de l'opinion qui est les médias sans service, que sont les médias sans service. Donc nous, en Grèce, par rapport à Obdoré, on a vraiment vérifié ça, c'est-à-dire que Obdoré était utile à un moment donné, les témoins à un autre moment parce qu'elle était devenue, avait trop mauvaise réputation, et l'action du mouvement social, l'action des antifascistes en particulier, était devenue tellement importante, tellement efficace, qu'elle commençait à donner à réfléchir aux gens par rapport à la faculté d'intervenir sur le cours des choses. C'est-à-dire que l'action antifasciste qui a permis de mettre fin à l'aura d'Obdoré, elle a participé elle aussi, pas seulement à Xerkia, elle a participé elle aussi à nous montrer notre capacité d'agir sur le cours des choses, notre capacité à résister d'une certaine façon. Et ça, c'était plutôt dérangeant pour le pouvoir. C'est l'analyse qu'on en a fait il y a quelques semaines lors d'une assemblée à ce sujet, d'une grande assemblée sur ce sujet parmi pas mal d'antifascistes. Et donc, pour finir sur Obdoré, aujourd'hui, cet échec total a conduit Obdoré aux dernières élections du printemps à tomber en dessous des 3%. En Grèce, si vous êtes en dessous du seuil des 3%, vous perdez, vous n'avez plus de députés au Parlement. Il faut au moins avoir 3% pour avoir des députés au Parlement. Donc Obdoré, en dessous, a perdu tous ses députés, n'a plus de représentation au Parlement, donc plus d'argent. Donc résultat, impossibilité de louer la plupart de ses locaux. Le peu de locaux qui existaient encore à Athènes, notamment le grand local de Mesogio, a été du coup abandonné. C'était un grand local avec des étages, avec Obdoré écrit en très gros sur une avenue très fréquentée. C'est fini. Aujourd'hui, le local principal qui subsiste d'Obdoré, toujours à Athènes, c'est le local du Stathmos Larissis, c'est-à-dire la gare en direction de Larissa. Et ce local-là, il vient d'être attaqué par les antifascistes et brûlé il y a 3 semaines seulement. Voilà. Donc il n'est pas entièrement brûlé, mais il est en grande partie brûlé. Il est très vulnérable. Les fascistes ont peur à l'intérieur de s'y réunir, etc. Ils font la réunion ailleurs de façon discrète. C'est pour vous dire à quel point ils sont sous pression aujourd'hui. Les derniers sondages ont donné leur durée à entre 0,5 et 1%. Ils sont à moins de 1% aujourd'hui dans les sondages.
Il n'y a pas des photos qui ont circulé dernièrement où on a vu aussi des intervenants dans Exarchia, même des policiers, qui portaient ouvertement le sigle d'Obdoré. Enfin,
Alors, c'est bien parce que du coup, tu me permets de compléter en disant simplement la chose suivante. C'est pas parce qu'Obdoré est en train de disparaître, l'étiquette, que pour autant le produit reste pas en stock. Hein. C'est-à-dire que le fascisme, il est toujours là, et bien là, et peut-être plus là que jamais, de la façon suivante. Premièrement, parce qu'Obdoré était très implanté dans la police, mais c'est pas qu'en Grèce. Hein. En France aussi, vous avez Le Pen qui est très, très bien implanté dans la police et dans d'autres corps du pouvoir, d'autres corps au service du pouvoir. Le 26 août, on a eu les premières offensives dans Exarchia formelles avec l'évacuation notamment de Spiro Tricoupi 17 ou de Transitio, on a vu des gens, des policiers avec des logos fascistes, y compris des logos spartiates, etc., mais aussi des logos qui sont clairement utilisés dans les réseaux d'Obdoré. On a vu aussi des gens qui se baladaient avec des t-shirts autour des policiers, des auxiliaires de police, qui avaient des t-shirts des hooligans néo-nazis de la Roma, ou encore un t-shirt des fans d'Europe, le fameux t-shirt bleu des fans d'Europe. Donc oui, il y avait une forte présence fasciste à l'intérieur du quartier, apparemment, mais ça on ne peut pas le prouver. De même qu'à la ZAD du Testé, on avait remarqué qu'au moment des offensives policières, les violences policières, ce n'était pas forcément les mêmes escadrons qui nous étaient envoyés. Hein, il y avait une rotation. Et bien là, pareil, avec Sarkey, il semblerait que pour les offensives, ils aient choisi volontairement des escadrons plutôt virulents par rapport à ces questions-là. Après, quand je dis que le fascisme, la question du fascisme est loin d'être réglée en Grèce, c'est tout simplement parce qu'en fait, les pouvoirs récupèrent comme une éponge progressivement les idées d'extrême droite qui circulent dans la population du fait de ce magma qui est fait, notamment qui est opéré par les médias qui leur donnent la parole. Et donc, de même qu'en France, il y a une certaine lepénisation des esprits depuis longtemps, et qu'on en a vu les conséquences, et qu'on voit de plus en plus Macron courir après Le Pen pour essayer de l'empêcher de prendre sa place dans 2 ans. En Grèce, on observe aussi le phénomène de Mitsotakis qui séduit l'électorat d'Obdoré en disant « Moi, je vais faire 2 choses. Je vais nettoyer Exarchia, vous n'aurez plus de nouvelles de ces anarchistes, antifascistes, gauchistes. Et deuxièmement, je vais vraiment fermer la porte aux migrants, je vais les mettre dans des camps fermés, ils ne vont plus se balader comme autrefois. » Voilà, comme dans l'époque des premiers hotspots. Et donc ça a séduit une partie de l'électorat de fascistes. Donc le fascisme, il reste bien là, mais, excusez-moi, ce n'est pas une opinion personnelle, c'est l'opinion de la plupart de mes camarades, on ne résoudra le problème du fascisme qu'en s'attaquant clairement à sa base, à sa cause, et sa cause, c'est le capitalisme. Donc c'est une vue de l'esprit de croire qu'on peut lutter contre le fascisme sans lutter contre le capitalisme. Pour nous, il n'y a que 2 antifascismes, l'antifascisme anticapitaliste, c'est-à-dire celui qui ne passe pas par les canaux du pouvoir, les réseaux du pouvoir, les réseaux des médias mainstream, etc., mais qui lutte clairement contre toute cette machine qui est en face de nous, qui fabrique l'opinion, qui favorise le fascisme. Et même, j'irai plus loin que ça, pardonnez-moi mes opinions radicales sur cette question, mais je pense aussi que c'est pas seulement la question du capitalisme, c'est aussi la question du pouvoir dans la société. C'est-à-dire que lutter contre le capitalisme, c'est une chose, c'est lutter contre l'exploitation, mais aussi faut-il lutter contre la domination qui permet l'exploitation. Il n'y aurait pas d'exploitation sans domination, c'est-à-dire sans rapport de domination dans la société. Et ce rapport de domination vient du fait qu'on accepte l'idée du pouvoir. Donc par conséquent, il est pour nous impensable d'arriver à lutter contre le capitalisme sans lutter, avec Sarkia en tout cas, et dans ces réseaux-là, sans lutter contre cette capacité à accepter la domination qui est celle qui a été inculquée dans nos sociétés depuis trop longtemps. Donc la société autoritaire fabrique de temps en temps des monstres, fabrique le fascisme, mais le fascisme n'est que la forme ultime de la société autoritaire et du capitalisme.
C'est la fin de cette émission sur Radio Albigès, merci à vous de l'avoir suivi. On rappelle que ces échanges ont été enregistrés le 15 novembre 2019 lors d'une soirée de soutien au quartier d'Exarchia, une soirée organisée par l'ESCAL, Sud Éducation, le groupe libertaire ELAF et Attac Tarn. Si vous souhaitez plus d'informations, on vous recommande chaudement le blog de Yanis Youlountas qui a conclu les interventions à l'adresse blogyy.net. Vous pourrez notamment y voir les trois films documentaires qu'il a réalisés en attendant le quatrième qui devrait voir le jour prochainement. Si vous avez manqué le début de ce programme, il est disponible en podcast en passant par le www.radioalbiges.com à l'onglet podcast. Merci d'être avec nous et très bonne soirée à l'écoute de Radio Albiges.